Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour, nous n'avons pas vu le Benoît Jacquot, Eva avec Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel. Pas vu non plus le jour de mon retour avec Colin Firth et Rachel Weisz. On n'a pas voulu voir Madame Mills, une voisine si parfaite avec Sophie Marceau et Pierre Richard. Et on regrette de ne pas avoir vu The Disaster Artist, le film de James Franco. Mais qu'est-ce qu'on a vu finalement, Manu ?
Eh bien, Hurricane, film catastrophe de Rob Cohen. Et puis L'Ordre des Choses, un polar italien.
Et puis Marine, eh bien, nous parlera d'un film cabarde, c'est le premier de Cinérama, hein, Testa Nota, film très attendu qui plonge son héroïne dans les tensions communautaires au cœur de la Russie. Elle a vu également Féminin Pluriel, une réunion de trois courts-métrages, un film confidentiel, tout comme Air, film iranien de Mahmoud Ghaffari, dont je vous parlerai. Et puis, eh bien, je vous parlerai aussi, si on a le temps, le secret des Marrowbone. C'est un film très attendu. Et puis, comme les Césars, eh bien, se sont déroulés il y a peu, nous allons revenir sur les Césars avec un montage spécial, une sorte de résumé. On l'écoute chaque année dans Cinérama, mais on débute avec une histoire d'ouragan.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Il y a un ouragan qui arrive. Pas tarder.
Alors si Hurricane rappelle en apparence un classique du cinéma catastrophe des 90s, hein, l'amusant mais très manichéen Twister de Jean Debon, c'est en réalité un autre film sorti à peu près au même moment que le film de Rob Cohen fait davantage songer, l'oublié, pourtant très sympathique, Pluie d'enfer de Michael Salomon, qui mettait en scène un braquage sous une pluie torrentielle. Alors Hurricane en reprend à la virgule près le schéma narratif, hein, pas question de pluie ici. Alors pendant le plus impressionnant ouragan ayant touché les États-Unis, une équipe de braqueurs infiltre la réserve de billets des États-Unis. Leur objectif est de s'emparer de 600 millions de dollars qui doivent être détruits. Alors argument étrangement similaire au récent Criminal Squad, sauf que c'est 120 millions, un peu moins, je ne sais pas pourquoi, qu'on avait chroniqué la semaine dernière. Alors les scénaristes en voudraient-ils à l'État ? Bref. Alors revenons à nos voleurs, tout semble parfait, mais il y a un grain de sable, enfin deux, voire trois. Une convoyeuse de fond, Kazay, aidée par un météorologiste, Will, et son frangin, va contrecarrer les plans des méchants braqueurs n'ayant pas mesuré l'impact de la tempête du ciel. Alors que le jeune Will, hein, devenu génie de la météo depuis que son papa s'est fait emporter par un ouragan 20-30 ans en arrière, lui est conscient de la situation problématique. Il sait tout et il va sauver la planète, enfin juste sauver sa peau et puis celle de ses proches.
Allez, on va sauver le monde!
C'est quoi cet arsenal ?
Hein ? Je suis citoyen d'Alabama. Ouais ! On va être emporté par la plus grosse tempête du siècle.
Attention !
Vous savez bien que ça allait être une journée de chiottes.
Ah ! Hey ! Ça risque de faire mal !
Quoi ?
On sent l'ambiance. Hein.
Sauf qu'on n'entend pas le morceau dans le film du tout. Ouais. Alors on ne peut pas dire que Hurricane brille par l'originalité de son scénario, mais il faut avouer que d'intégrer le film de braquage au cœur du genre catastrophe est plutôt une bonne idée qui a fait ses preuves, évitant ainsi une certaine monotonie, détournant l'attention de ce pourquoi on est venu. Rappelez-vous, j'en parlais un peu au sujet du Hitchcock, c'est-à-dire que, sauf que là, ils s'en tiennent vraiment au braquage. Hein. Alors heureusement d'ailleurs, car la grosse faiblesse de Hurricane réside dans ses effets numériques. Les tornades ne sont pas très crédibles et constituent le point faible de cette modeste production de 35 millions de dollars. Ce qui est relativement modeste pour un film de ce type. Mais la mise en scène est habile et nerveuse, laissant le plus souvent en arrière-plan les effets spéciaux, préférant dynamiser son récit trépidant à défaut d'être novateur, à l'instar des rebondissements téléphonés. Alors porté par un casting sans star, mais plutôt impliqué, hein, Hurricane est néanmoins un agréable action movie, nous replongeant avec nostalgie dans les années 90, tant le film paraît aujourd'hui anachronique. Alors pas étonnant que l'on retrouve à la production Moshe Diamant, grâce à qui l'on doit, enfin grâce ou à cause, hein, ça dépend, les meilleurs vendeurs Dame, hein, de Piège à Hong Kong à Time Cop, le vétéran aussi Rob Cohen est surtout connu pour être le réalisateur du premier Fast and Furious, mais aussi du mésestimé Daylight avec Sylvester Stallone, un artisan à l'ancienne capable d'emballer d'impressionnantes scènes d'action parfaitement lisibles. Alors Hurricane est au fond, on dirait une bonne série B à l'ancienne, alliage réussi de course-poursuite effrénée, de gunfight très cinégénique. On n'en demande guère plus, et si on se moque un peu des personnages, en particulier des liens traumatiques qui lient les deux frangins, on reste scotché sur notre fauteuil devant ce bon film du dimanche soir, modeste et honnête, que l'on oubliera certainement vite, mais que l'on reverra avec plaisir, d'autant que les 15 dernières minutes assez démentielles virent carrément vers une forme d'abstraction visuelle de toute beauté. Bref, délesté de toute prétention, Hurricane est le parfait contrepoint du désagréable et boursouflé Criminal Squad, qui traitait un peu de la même chose, mais...
Et puis comme les deux sont actuellement dans les salles, eh bien autant préférer celui-ci.
Oui, qui paraît beaucoup plus simple et peut-être comme ça en apparence moins bon, moins ambitieux, mais qui à mon avis d'une qualité très supérieure.
Ça, c'était un film qui était dans les salles depuis le 28 février. Maintenant, un film dans les salles depuis le 7 mars. C'est Tess Nota, Une vie à l'étroit de Kantemir Balagov. Et c'est Marine qui l'a vu.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Fin des années 90, dans le nord du Caucase, en Russie, Ilana, 24 ans, est tiraillée entre sa famille et ses propres désirs. Sa famille, issue d'une communauté juive très traditionnelle, souhaiterait la marier au plus vite, mais elle préfère passer son temps avec son petit ami et travailler dans le garage de son père. Elle se sent à l'étroit dans sa vie, elle qui rêve de fuir ce territoire hostile, jusqu'au jour où un événement imprévu survient, son frère et sa fiancée sont kidnappés, et pour la famille, il est bien sûr hors de question d'appeler la police, il leur faut trouver suffisamment d'argent pour payer la rançon demandée. Alors petit topo, pour bien comprendre de quoi il s'agit, le film prend place au sein de la communauté juive de la ville de Naltchik, abritant elle-même d'autres communautés qui ne cohabitent pas spécialement bien. Cette ville étant elle-même située en Kabardie, qui est une république autonome au sein de la Russie, dans le Nord-Caucase plus précisément, et qui au passage abrite la plus haute montagne d'Europe. Alors je vous précise tout cela parce que justement le film manque un peu d'informations. On se retrouve projeté dans cette famille, au milieu de ce peuple si particulier avec son passé, ses traditions, mais rien ne nous est expliqué et c'est peut-être le seul défaut du film. Alors c'est Kantemir Balagov, donc jeune réalisateur de 26 ans qui réalise ce Tess Nota, présenté l'année dernière en sélection Un certain regard au Festival de Cannes, sélection dans laquelle il avait toute sa place. Ancien élève de Alexandre Sokourov dans l'école qu'il a lui-même créée en Kabardie, Balagov nous propose un film assez autobiographique se déroulant sur les terres de sa jeunesse, réalisé avec toute l'urgence et la fougue propre au premier film. D'ailleurs, Sokourov a fortement contribué à ce Tess Nota, notamment au niveau du scénario en tant que directeur artistique et pour finir en le produisant. L'élève a donc été largement adoubé par le maître et à juste titre, Tess Nota propose une grammaire de l'image parfaitement maîtrisée, une atmosphère rigoureusement austère et une vision sociale sans concession. Toute l'étroitesse de cette vie est rendue par une image en 4/3 au sein de laquelle le réalisateur instaure un mouvement perpétuel dû principalement à la jeune actrice qui interprète Ilana dont c'est le premier rôle et qui impose une présence furieuse et énergique. Et malgré une vision sans concession de la société qui est dépeinte ici, Balagov achève son film par une séquence hommage à son pays, sortant sa caméra des maisons étroites et surpeuplées pour filmer les imposantes montagnes du Caucase. Alors bien qu'un peu long et manquant également un peu d'humour et de légèreté, ce Tess Nota est une réussite et c'est aussi une belle leçon de cinéma de la part de celui qui n'était encore qu'un élève il y a peu de temps.
Oh, merci Marine qui recherche l'humour dans les films cabardes. Pourquoi pas. Voilà, et maintenant on va parler des Césars 2018.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
La cérémonie s'est bien déroulée, surtout pour deux films, 120 battements par minute, qui a obtenu quand même 6 prix sur 13 nominations. Et puis Au revoir là-haut, le film d'Albert Dupontel, qui lui a obtenu 5 prix, dont meilleur réalisateur, costume et adaptation. À noter aussi que Petit Paysan s'en tire très bien avec meilleur acteur, meilleure actrice. Bon, c'est quand même ce qu'on demande à un film, d'avoir des bons acteurs. Et puis, meilleure actrice dans un second rôle, et puis meilleur premier film. Et puis, à noter que Barbara de Mathieu Amalric s'en est très bien sortie avec meilleur son et meilleure actrice. Parmi les films qui n'ont rien obtenu, Le sens de la fête, 10 nominations, absolument rien. Il y a eu Grave, ça tu le regrettes peut-être Manu, parce que tu avais bien apprécié ce film.
Oui, sans doute.
Le Redoutable, le film d'Azanavicius, Patient n'a rien obtenu, la promesse de l'aube n'a rien obtenu, les gardiennes non plus, et Monsieur et Madame Adelman non plus. On écoute un montage qui est une sorte de condensé, si vous n'avez pas assisté, comme Manu d'ailleurs, à cette cérémonie.
J'attendais ce moment avec impatience. Moi aussi.
César du meilleur espoir masculin est attribué à Nahuel Pérez Vizcaya.
On a été un vrai collectif. Et voilà qu'on se retrouve à concourir, Arnaud. Quel paradoxe, les prix, mais bon.
C'est normal.
Et le César du meilleur espoir féminin est attribué à Camélia Jordana dans Le Brillant.
Merci à ma mère pour sa force, qui a dû arrêter d'aller à l'école malgré son amour pour les mots.
J'aimerais bien que vous me racontiez votre histoire, si je n'abuse pas.
Du coup, je les ai racontées là-dedans, et ça donne ça. Merci infiniment, bonne soirée.
L'art de bien dire, convaincre, avoir raison. La vérité, on s'en fout.
Le César de la meilleure photo est attribué à Vincent Mathias pour Au revoir là-haut.
Je vous remercie beaucoup.
Vous en êtes sûr ?
Et le César du meilleur son est attribué à Olivier Mauvezin, Nicolas Moreau et Stéphane Thiébaud pour Barbara.
On s'est amusés tous comme des petits fous.
Le César des meilleurs décors est attribué à Pierre Kefeléan pour Au revoir là-haut.
Ce César, je le partage surtout essentiellement à toute mon équipe de déco. Nous étions 82.
Oui, ça n'avait rien de drôle, cette expérience, n'est-ce pas ?
Le César des meilleurs costumes est attribué à Mimi Lempicka pour Au revoir là-haut.
Je voudrais remercier Albert Dupontel et Catherine Bozorgan.
Pardon, veuillez continuer.
Le César du meilleur montage est attribué à Robin Campillo pour 120 battements par minute.
Bonsoir, en fait, j'ai pas monté ce film tout seul.
Il apparaît que c'est la seule explication que vous arriviez à nous donner.
Et le César du meilleur scénario original est attribué à
Robin Campillo.
Bravo, Robin Campillo.
Encore une fois, j'étais pas seul pour le scénario.
Je dois avouer que cette éventualité m'avait échappé.
Alors, le César du meilleur court-métrage est attribué à les Bigorneaux, réalisé par Alice Vial.
J'aimerais remercier ma fabuleuse équipe qui a quand même bravé une tempête CoF9 en Bretagne avec beaucoup de joie et de professionnalisme.
Oui, c'est drôle, n'est-ce pas ?
Le César de la meilleure musique originale est attribué à Arnaud Rebottini pour 120 battements par minute.
Si la musique de 120 battements par minute a une profondeur, c'est qu'elle est la voix de ceux qui sont morts, qui ont perdu des proches, qui sont battus, qu'on n'a pas voulu entendre. Et je dédie ce prix à ces héros oubliés d'hier et d'aujourd'hui. ACT UP existe toujours et le sida n'est pas qu'un film. Merci.
Tâchez de ne pas l'oublier.
Cette année, pour la première fois dans l'histoire de la cérémonie, nous allons remettre le César du public.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Merci beaucoup. Non, je m'y attendais pas, vraiment, je m'y attendais pas du tout.
Avec vous, en tout cas, aucun risque de se tromper. Vous êtes un idiot authentique.
Le César du meilleur film d'animation court-métrage est attribué à Pépé Le Morse.
Je sais pas si on peut dire que tout film est une psychanalyse de son auteur.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il ? C'est une blague ?
À présent, je vais remettre le César du meilleur film d'animation long métrage au grand méchant renard et autres contes.
Ce projet, il est né sur des cahiers de lycée et du coup, voilà, je remercie mes profs de m'avoir laissé dessiner pendant les cours. Enfin, c'était vraiment cool.
Qu'est-ce que vous diriez ?
Penelope, te quiero.
C'est ça ce que vous pensez ?
C'était impossible de faire que Penelope ait l'air pauvre, provinciale et misérable.
Oh, comme c'est fâche.
Ah oui, très.
César du meilleur premier film est attribué à Petit Paysan, réalisé par Hubert Charuel.
Je remercie l'Académie d'avoir recommencé un film de plouc sur les ploucs fait par un gros plouc.
C'est drôle que vous me disiez ça.
Et le César du meilleur acteur dans un second rôle est attribué à Antoine Reynard dans 120 battements par minute.
J'ai mis un an et demi à réaliser que j'avais tort, que c'était un peu grave de penser que le sida faisait partie de notre mémoire sous prétexte qu'il tuait aujourd'hui essentiellement hors de nos frontières.
Embarrassant.
Et le César de la meilleure actrice dans un second rôle est attribué à Sarah Giraudeau dans Petit Paysan.
J'embrasse les sacrées belles actrices qui étaient nommées avec moi.
Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ceci.
La César de la meilleure adaptation,
Albert Dupontel et Pierre Lemaître pour Au revoir là-haut.
Ma reconnaissance va évidemment, dès les premiers mots, à Albert Dupontel, qui s'est emparé avec beaucoup de courage d'une affaire qui était compliquée et difficile.
Ça me paraît évident.
Et le César du meilleur film étranger est attribué à
Ken Loach.
Non, ça c'était l'année dernière, Pierre.
Ouais, ça pourrait les embrouiller.
À Faute d'amour, réalisé par Andrei Zvyagintsev.
Что продаете?
Разводимся.
Андрей Дзагинцев n'est pas là, il est aux Oscars, où son film concourt dans la même catégorie.
Mais je pense que c'est une banalité.
Le César du meilleur documentaire est attribué à I'm Not Your Negro.
réalisé par Raoul Peck.
Raoul Peck n'est pas là, malheureusement, il ne pouvait pas être là.
Oh, mais j'avais compris.
Et le César du meilleur acteur est attribué à... Atchoum. Non. Swan Arlo, dans Petit Paysan.
Videz votre cœur.
Ce film, j'y suis rentré en allant à la ferme, en mettant des bottes, une cotte.
C'est extravagant.
Et le César de la meilleure actrice est, je vais vite, est attribué à Jeanne Balibar.
Je suis très myope, alors je ne les vois pas.
Il y a certaines choses que je dois voir de mes propres yeux.
Emmanuel, Juliette, Charlotte, Karine, Marina et aussi Doria, que je connais moins. Parce que nous, les autres, nous sommes un peu des jumelles à la mode de Bretagne, n'est-ce pas, les filles? Et nous traversons nos vies d'actrices ensemble depuis un bon moment maintenant. Et quelle joie, quelle fierté de partager ce César 2018 avec vous.
Allez-y.
Le César de la meilleure réalisation est attribué à Albert Dupontel pour Au revoir là-haut.
Albert n'est pas là ce soir car il n'est pas à l'aise avec les compétitions.
Oui, bien entendu, c'est très clair. Et je m'en voudrais de vous forcer à faire une chose qui ne semble pas vous emballer.
Le César du meilleur film est attribué à 120 battements par minute.
Merci de nous rappeler tous les jours l'importance des luttes.
Je crois qu'il est grand temps de s'en aller.
Et c'est bien sûr sur la musique hein, de 120 battements par minute, le grand héros de cette soirée, cérémonie, que, eh bien, on en termine avec ce montage spécial exhaustif hein, cette année, parce que j'ai pris vraiment toutes les catégories, elles y étaient toutes. On revient aux chroniques de films, à l'actualité cinématographique, avec l'ordre des choses.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Alors Rinaldi, un policier italien méthodique et rigoureux, est envoyé en Libye dans le but de négocier le maintien de migrants sur le sol africain. Alors une fois sur place, il constate que des trafiquants exploitent la détresse des réfugiés. Il se heurte aussi à la complexité politique du pays, en l'occurrence des rapports tribaux très compliqués à gérer. Alors son enquête le mène à croiser Swada, une jeune Somalienne qui lui demande de contacter un membre de sa famille afin de l'aider à sortir du pays. Dès lors, la carapace de Rinaldi va peu à peu s'effriter. Il va se retrouver face à un dilemme moral entre sa fonction au service de l'État et sa conscience en tant que citoyen. Alors la première réussite de l'ordre des choses tient dans l'écriture du personnage du flic. Plus vrai que nature, crédible de la première à la dernière image. Alors Paolo Pierobon est parfait dans le rôle de Rinaldi. Il est une sorte de miroir tendu au spectateur, incarnant un peu la conscience ambivalente qui s'agite en chacun de nous, entre obéissance à un système injuste par impuissance et une révolte intérieure se demandant bien si on peut bouleverser l'ordre des choses. Alors avec son troisième long métrage de fiction, parce que je crois qu'il a un très long passé de documentariste, hein, Andrea Sagré se frotte à un sujet très brûlant au cœur de l'actualité, la situation précaire de la venue des migrants en Europe, en Italie en l'occurrence, et la manière dont les politiciens gèrent ce problème avec des stratégies passant de la bonne conscience au cynisme le plus effrayant. Alors, dans un style distancié, évitant toute forme d'émotion facile, Andrea Sagré tire le meilleur de son passé de documentariste lorsqu'il filme les migrants entassés dans des sortes de camps, ou à l'opposé, quand il monte des fonctionnaires au travail, la minutie avec laquelle il négocie, leur marge de manœuvre réduite afin d'éviter le pire. Alors, l'ordre des choses fait parfois froid dans le dos, se détourne toute démagogie et nous expose une réalité que l'on devine, mais que l'on préfère souvent ignorer pour des raisons confortables. Alors, le film renoue adroitement avec une grande tradition du cinéma politique italien, hein, très en vogue dans les années 70 avec des cinéastes comme Francesco Rossi ou Damiano Damiani. Sauf que l'époque a changé, il n'y a plus de héros, de romantisme, on est dans le pragmatisme et le réel. L'utopie a laissé place à une forme de résignation, de lucidité, selon l'angle qui nous convient. Alors Sagré livre une œuvre édifiante, hein, pas toujours aimable en raison d'un traitement clinique, à l'image d'un épilogue glaçant qui nous renvoie à notre propre impuissance. Mais en même temps, il nous alerte sur un problème contemporain particulièrement épineux, sur lequel il est nécessaire de trouver des solutions humaines et acceptables, même s'il se réserve le droit de n'en apporter aucune. Alors voilà un témoignage que je trouve assez passionnant pour ce polar social et politique très bien documenté et dénué de moindre manichéisme, quitte à sembler aussi pas très généreux comme ça, et puis enfermer le spectateur dans une logique un peu fataliste. Alors on peut voir aussi ce film dossier comme une sonnette d'alarme qui nous mettrait face à nos responsabilités. Enfin, c'est un film assez étonnant, pas facile à regarder. Parfois pas toujours très passionnant parce que formellement le film est très, très aride, mais je le conseille vivement tout de même.
Et le titre est sentencieux. L'ordre des choses, donc, c'est en salle depuis le 7 mars.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Après Un homme intègre fin 2017, Un cas de conscience en février, voici un nouveau film iranien intitulé Air comme cheveux. Alors malheureusement, contrairement aux autres films, celui-ci ne bénéficie pas d'une bonne distribution. Il y a peu de chances qu'un cinéma ait été tenté de le programmer. Mais j'avoue que j'apprécie de plus en plus la cinématographie iranienne. Et pas seulement Mohammad Rasoulov, Asghar Farhadi ou Jafar Pahani ou encore Abbas Kiarostami, mais tous les autres et notamment la nouvelle génération dont fait partie Mahmoud Ghaffari, le réalisateur de Air. Alors, il s'agit de son deuxième long métrage. Quand on demande au réalisateur s'il a des problèmes avec le comité de censure iranien, eh bien lui, il explique qu'il se débrouille tout seul pour tourner ses films, ce qui évite bien de rendre trop de comptes. Et il se trouve que, contrairement aux films que j'ai cités auparavant, Air prend beaucoup moins de gants avec le pouvoir et la société iranienne. Les autres partaient d'une situation concrète pour traiter d'un problème universel, l'honnêteté ou la culpabilité. Eh bien ici, le réalisateur iranien n'est pas aussi subtil et attaque de front son sujet. Air raconte l'histoire de trois jeunes sportives iraniennes muettes qui, en 2013, sont sélectionnés au championnat du monde de karaté. Alors tout est prêt pour leur départ en Allemagne, un détail près, les autorités iraniennes leur imposent la tenue réglementaire pour la République islamique, soit couvrir leurs cheveux et leurs cou. Habillées de la sorte, les caméras du monde entier pourront les filmer sans qu'elles soient impudiques, et si jamais les médias pouvaient les voir dans une tenue réglementaire, c'est-à-dire au minimum le cou à l'air, enfin la tenue réglementaire de la Fédération internationale, c'est-à-dire donc au minimum le cou à l'air, eh bien elles seraient indignes de représenter leur pays. Évidemment, s'il s'agissait d'athlètes hommes, il n'y aurait aucun problème.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, dès le début, le spectateur est confronté à cette vision politique et religieuse. Ainsi, en termes de mise en scène, Mahmoud Ghaffari voit les choses simplement, voire un peu trop simplement. Il oppose la gaieté et l'insouciance de ces jeunes athlètes, qu'on voit croquer la vie à pleines dents, à défaut de s'entraîner durement, au discours de la Fédération de Karaté, ou encore à celui d'un employé du ministère des Arts chargé de déterminer quelle tenue est réglementaire dans la République islamique. Et si ça ne suffit pas, eh bien, on envoie ces jeunes filles plaider leur cause auprès d'un grand guide religieux. Tous les moyens sont bons pour accéder à la compétition et donc concrétiser leurs rêves. Parviendront-elles à rejoindre l'Allemagne? C'est tout l'enjeu de Air, qui est filmé comme un documentaire et qui aurait sans doute gagné à en être un. La caméra épaule, filmant les instants de plaisir autour de musiciens ou dans un hara ou simplement dans un jardin public, sont autant de moments répétitifs qui peinent à donner du poids à la fiction. Celle-ci décolle quand le réalisateur s'attache à nous montrer les mécanismes de la censure qui parviendront petit à petit à morceler l'amitié qui unit ces trois compétiteuses. Alors, choix étonnant, seuls les dialogues parlés sont traduits. Les langages des signes que les filles utilisent ne le sont pas, ce qui n'est pas si perturbant. Alors, autre élément de mise en scène, le réalisateur a pris soin parfois d'enlever le son pour nous laisser percevoir le monde de ces sourds muettes, mais le dispositif est trop timide et ponctuel pour nous immerger totalement. Voilà, donc elle parle un peu, finalement. Mais peut-être avez-vous vu le film ukrainien The Tribe, qui se passait dans un centre de sourds-muets, qui nous était donné à voir sans dialogue, lui aussi, avec un son non pas atténué, mais bien présent, nous montrant que les personnages n'avaient pas à s'en soucier. Le spectateur était loin d'être exclu, car il s'agissait d'un parti pris de départ. Alors ici, le procédé est un peu vain et nous met finalement à distance. Air ressemble à un projet immature, plein de bonnes intentions. Le sujet va forcément convaincre les spectateurs de l'injustice criante dont sont victimes les femmes en Iran. Pour le reste, ce que vivent ces filles sourd-muettes, la tension, l'émotion finit par s'estomper. C'est dommage, mais malgré cela, vous ne regrettez pas forcément la séance. Mais de toute façon, vous aurez peut-être du mal à la trouver sur le territoire français, car il y a très peu donc de cinéma qui projette ce film Air, film iranien de Mahmoud Ghaffari. C'est le cas aussi d'un autre film, celui-ci il est français, c'est Féminin pluriel, petit film dont va nous parler Marine.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis, et même saloperie.
Douce, c'est son prénom. Avzia et Delphine sont trois jeunes femmes bien distinctes qui ne se connaissent pas, dont chacune est le cœur d'un des segments de Féminin pluriel. Douce est aide-soignante et s'occupe des patients plongés dans un coma profond. Un jour, elle se sent étrangement troublée par l'un des malades de son service. Delphine travaille à la communication de la ville de Tulle en Corrèze, théâtre d'un massacre perpétré par les Allemands en 1944, un peu oublié par l'histoire, mais dont la blessure est toujours vivace chez les habitants. La grande histoire va ainsi se mêler à la petite histoire d'amour qu'elle va entamer avec une jeune photographe allemande. Avzia est étudiante en histoire de l'art, sa professeure la prévient qu'elle devra ôter son voile le jour de sa soutenance. Cet examen va devenir pour Avzia l'occasion de défendre ce qu'elle considère comme une appartenance culturelle.
C'est toi qui dis ça ?
Non, c'est ma coloc, elle est en vacances.
Moi j'adore Proust, je viens juste de finir La Prisonnière. Je suis addict, presque comme une série télévisée.
Emprunte-lui, hein. Ah, c'est quoi ça?
Non.
Si, c'est toi,
non, mais
c'est
quoi, là, arrête,
c'est quoi de déguiser? C'est quoi? C'est du kung fu, du karaté, du taekwondo. Ah non, c'est du judo. Si, la robe là, c'est du judo, c'est ça? Et tu gardes ton voile, Afsia, pour faire du judo.
Déjà, c'est pas du judo, c'est de l'aïkido.
De quoi? De l'aïkido?
De l'aïkido.
Aïkido,
oui.
Ah ouais.
Mais c'est pas un.
Et c'est violent?
C'est très violent, oui.
Ah ouais?
Donc fais attention parce que je suis troisième dan.
Ok. Et c'est pas un voile, c'est quoi?
C'est un hijab.
Ouais, un comment? Un comment, je pense.
Féminin pluriel est un premier long qui n'en est pas vraiment un, puisque le réalisateur Sébastien Bailly a en réalité assemblé trois de ses courts-métrages. Alors le postulat de départ, dresser trois portraits de femmes, était plutôt intéressant, mais la réalisation peu inventive ne met pas en valeur ce triptyque qui, par ailleurs, manque cruellement d'un but, d'une réflexion, d'un liant. Les trois courts-métrages n'ont pas été réalisés dans le but de créer une entité. Le réalisateur les a tournés entre 2011 et 2015, ce qui fait que l'ensemble manque de cohésion, les trois parties du film ne se répondant pas nécessairement. L'un des seuls dénominateurs communs à ces trois parties, c'est le regard de l'autre, la façon dont il détermine qui l'on est en tant que femme et la façon dont on doit s'en défaire pour s'affirmer et avancer. Il est également question chez ces trois personnages de leur rapport à leur propre corps, au corps de l'autre et au désir qu'il suscite, le désir féminin étant ici montré comme une force inéluctable. Après, est-ce qu'un réalisateur, hein, un homme, est le mieux placé pour parler du désir féminin? C'est toujours un problème qui se pose dans le cinéma français et ce n'est pas Abdelatif Kechiche, hein, qui nous dirait le contraire.
Vous avez passé une bonne soirée hier, toutes les deux?
De quoi tu parles?
Je vous ai vu dans la rue, vous aviez l'air de bien vous amuser.
Si tu veux savoir, elle m'a bouffé la chatte et ça m'a plu. Voilà. Ça te fera un beau sujet de conversation en ville.
Côté interprétation, le casting est intéressant, hein, hormis Afzia Herzi, les comédiennes sont toutes quasi inconnues, mais le jeu des actrices parfois inégales donne à l'ensemble un côté poseur et cinéma d'auteur pas très abouti, frisant parfois l'amateurisme. Dommage car l'idée, sans être très originale, est intéressante et aurait mérité un peu plus de réflexion et d'originalité dans son traitement.
Alors si Féminin pluriel sera dans peu de salles en France, c'est pas le cas, hein, de Le secret des Marrowbones de Sergio Sanchez.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Il y a quelqu'un dans la maison. Rien, ni personne, ne nous séparera. Jamais.
C'est l'une des plus grosses sorties du 7 mars. Le secret des Marrowbones est un conte familial horrifique réalisé par le scénariste de L'Orphelinat et de Impossible, Sergio Sanchez. Alors nous sommes dans la campagne anglaise et très vite dans le lieu qui donnera tout son sens au film, la maison des Marrowbones. La famille est composée de la mère, ses trois fils et une fille. Et celui qui nous importe dans cette fratrie, eh bien, c'est Jack. Le jeune homme de 20 ans décide qu'à la mort de sa mère, alors aucun suspense hein, puisqu'elle meurt très vite dans le prologue du film, Jack décide donc que personne ne bougera de cette maison. Que frères et sœurs vont rester unis, mais faudra-t-il encore cacher que la mère est morte aux yeux de la communauté? Les voilà donc livrés à eux-mêmes dans cette grande maison à l'écart de la ville où d'étranges phénomènes se produisent et où l'on sait que 6 mois plus tôt, eh bien, une arrivée impromptue a effrayé toute la maisonnée. Il s'agirait d'un huis clos si Jack n'avait pas rencontré une chic fille et à qui un jeune homme qui ne tient pas en haute estime les Marrowbones, eh bien, fait du gringue. Donc ça fait 2 personnages supplémentaires. Mais dans l'ensemble, voilà à qui nous avons affaire dans Le secret de Marrowbone, une fratrie qui doit coûte que coûte garder son secret et lutter contre une présence indésirable dans la maison.
Nous venons de très loin. Nous avons enduré de terribles épreuves. Mais au final, nous avons trouvé l'endroit où nous pouvions être en sécurité.
Les enfants Marrowbones, ça m'inquiète qu'ils se cachent de cette façon.
Ils ne se cachent pas. C'est juste qu'ils habitent loin. Rapprochez-vous un peu.
J'en sais rien, mais si la vérité est dévoilée, on nous séparera.
Sergio Sanchez a bien évidemment soigné son scénario, hein, tirant sur un fil et ouvrant de nombreux tiroirs pour promener le spectateur dans cette maison un poil lugubre où les miroirs doivent être recouverts. Ce qui frappe dans Le secret des Marrowbones, c'est sa lenteur et sa méticulosité. Alors il n'est pas question pour le réalisateur de secouer le spectateur avec des jumpscares à tout bout de champ, mais plutôt de jouer avec le hors-champ en faisant durer la séquence. Cela lui permet de nous emmener suivre, eh bien, des pistes pour voir où elles mènent, quitte à rebrousser chemin et en reprendre d'autres. Jack est celui qui mène le récit et c'est par lui et les rares personnages auxquels il est confronté que nous pourrons accéder à la vérité. Car il s'agit bien pour le réalisateur de nous dévoiler une situation qu'on n'aurait jamais cru, véritable au premier abord. Le secret des Marrowbone flirte avec le drame psychologique teinté de surnaturel, tendance Alejandro Amenábar et Night Shyamalan. La plongée dans ce qui semblerait être les années 50 apporte une étrangeté supplémentaire au récit qui se déroule dans un décor de campagne au bord de la mer et majoritairement en plein jour, ce qui n'est pas anodin, le réalisateur insistant davantage sur les réactions de ses personnages que les phénomènes eux-mêmes. À ce titre, la figure de l'héritage et de la culpabilité est centrale. La narration est classique et pourrait en dérouter plus d'un, mais rien d'étonnant à cela puisque le réalisateur ne cherche pas le spectaculaire. Maître du scénario, il souhaite appliquer ses rebondissements après avoir tiré tous les fils et ouvert toutes les portes de la maison. À noter que Jack est incarné par George MacKay, c'était le fils aîné dans Captain Fantastic. Et on retrouve aussi Anya Taylor-Joy, qu'on a vu dans The Witch, Split et Morgan. Voilà, le secret des Marrowbone, c'est en salle depuis le 7 mars.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Enfin, contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
On se retrouve la semaine prochaine avec pas mal de films, l'affaire Romanji, Chien, Ghostland, Radia de Nabil Ayouch avec une interview du réalisateur. On parlera aussi de Mon 20e siècle et puis du dernier en Sang-Sous.